Vous écoutez Principe Actif. De vous à nous, on vous dit presque tout sur 102.4 à Évreux et 95.9 dans le sud de l'Eure. Vous êtes avec nous pour notre dernière émission de la saison avant les vacances avec un concept différent. Depuis mars 2019, une fois par mois, un thème d'actualité vous était présenté avec des invités, des chroniques et billets divers. Cela représente quand même 16 sujets différents, toujours passionnants. Aujourd'hui, nous changeons de formule. 3 sujets déjà traités vont être tirés au sort et l'équipe va débattre sur celui-ci en apportant... Il y a un thème mystère, inconnu des gentils reporters. Chacun pourra donc s'exprimer, à chaud comme on dit, autour d'un verre puisque c'est l'heure de l'apéro. Donc, pas d'invités à interviewer, mais de la musique, des débats animés et des rires avec Michel, Sylvie, Missy, Paul, Lucette et Michel déjà en vacances. Florence et moi, nous partagerons la conduite de l'émission. Mais avant de commencer, nous allons écouter le billet surprise de Michel, qui n'est pas avec nous, mais qui l'a enregistré.
Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie, approuvé par tous, l'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Pour la dernière de la saison, pas de billet d'humeur. Je vous présente notre équipe. Allez, allons-y. Toujours par Mont et par Vaud, donc beaucoup de choses à dire, son débit est au moins égal à celui de l'Amazonie, sauf qu'on peut l'arrêter, Florence. Elle est notre conteuse, sans note je vous prie, qui nous fait sourire et y croire. On vit avec elle ses fabuleuses histoires. Quand elle pose une question, elle a souvent la réponse. Lucette. Notre technicienne dans toutes les sciences, une passionnée, qui n'hésite pas à employer des mots anglais que même la reine Elisabeth ne connaît pas. Marie-Claude. Depuis peu avec nous, elle est passée de la cuisine d'un restaurant à la cuisine d'une émission. Belle reconversion. MC. Notre plume des sketchs, l'écriture et la littérature, sa passion. Le théâtre aussi, le théâtre. Dans une précédente vie, a dû jouer avec Sarah Bernard et Lucien Guitry, d'où sa fâcherie avec Internet. Michel. Elle nous fait partager son vécu et est surprise de se retrouver devant un micro. Un exemple à suivre, Paul. Elle aurait aimé que son existence soit un beau rêve. Quand elle parle, quand elle écrit, ou quand elle pense, c'est toujours en dansant. La vie, c'est plus marrant en dansant. Sylvie. Mais sans technique, pas d'émission. Nos réalisateurs et coachs, les voici. Elle nous apporte la jeunesse, notre starlette maison qui a dû monter les marches du studio de Principe Actif plus que celle du Festival de Cannes, Vincente. Il a un vrai nom d'animateur et un look de DJ. L'homme qui choisit d'aller chez le coiffeur les nuits de pleine lune et qui s'étonne que la porte soit fermée, Jean-Jean. Et moi, Michel. J'ai vu de la lumière, je suis rentré et resté. Toujours ravi d'être avec vous tous. Il y a des familles de théâtre et des familles de cinéma. Vous êtes ma famille de radio. Tout cela grâce au CCAS qui nous permet d'être là, merci à eux. Et important aussi, pour la cohésion du groupe, merci au London Pom qui nous accueille tard à 14h. Après l'émission, comme des rockstars, c'est bon et ils sont sympas. Et pour finir, merci à vous, auditeurs, de nous écouter. À la rentrée de septembre, bonnes vacances, bye bye.
Merci Michel. Eh bien dites donc, nous avons pris un petit peu de vision différente là de l'équipe. Est-ce que quelqu'un veut réagir, Sylvie?
Eh bien, mon cher Michel, c'est en dansant que je te souhaite des super vacances et je te dis à très vite.
Michel.
Merci Michel pour toutes les fleurs que tu m'envoies. Mais je vais reprendre le théâtre avec Guy qui est ici présent pour notre dernière émission avant les vacances.
Florence.
Eh bien Michel, me comparer à l'Amazonie, vraiment c'est un grand honneur que tu me fais. Je ne peux pas aller contre ton idée, effectivement. Je parle beaucoup. Voilà.
Merci. Lucette peut-être ?
C'est vrai que moi aussi, merci Michel. C'est vrai que le conte, c'est vraiment ma passion et j'ai toujours plaisir à vous raconter des histoires et j'espère qu'elles font plaisir aussi aux auditeurs. Quant aux questions, je n'avais pas remarqué que je savais la réponse avant de poser la question.
Quelqu'un veut prendre... Non, Paul, peut-être pas. D'accord. Alors, que la fête commence. Le ton est donné, que la fête commence.
Laissez parler les petits papiers.
Donc, on va demander à Paul, qui est notre dernière arrivée, de tirer le premier thème dans un joli chapeau que nous a préparé Sylvie. Paul, à toi.
Alors, premier thème, alimentation plus agriculture.
Ah, donc, c'est Florence qui prend la parole.
Et je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines.
Bon voilà, donc ben merci Carlos d'avoir introduit cette émission sur donc le thème l'alimentation et l'agriculture. Alors, l'alimentation et l'agriculture, ce sont deux sujets intimement liés. L'agriculture s'est développée depuis des millénaires pour donner donc à manger à une population croissante qui arrive, on le sait, à près de 8 milliards de personnes à ce jour. A-t-on réussi ce pari de nourrir l'ensemble de la planète? Et quelles sont les alternatives qui voient le jour? Quel rapport a-t-on avec la nourriture, nous, Français, qui se disons gastronomes? Qu'en pensez-vous, cher chroniqueur? Alors, je crois que Lucette veut prendre la parole.
Oui, parce que j'ai été ravie d'entendre Carlos, parce qu'il me semble que pendant notre émission, on n'a pas suffisamment parlé du plaisir. On a regardé l'équilibre alimentaire, la provenance des aliments, etc. Mais le plaisir est quand même quelque chose d'important dans l'alimentation. Ça commence à la préparation. Parce que pétrir une pâte, préparer un plat, c'est toujours agréable. Hier soir, par exemple, j'ai une amie qui est rentrée dans la maison qui m'a dit « ça sent bon ». Et je pense que le plaisir, il est là aussi, pour les gens qui arrivent. Et on se retrouve toujours, nous, après l'émission, pour manger ensemble. Ça prouve bien que c'est un moment de convivialité où on peut partager beaucoup de choses. Et ça m'a laissé... C'est le cas de le dire, un peu sur ma faim.
Voilà. Donc, il y a Michel qui veut aussi intervenir. Alors, voilà, tu, Michel.
Oui, alors, lors de l'émission sur l'alimentation, j'avais promis aux auditeurs de leur parler de la faim dans le monde.
Effectivement, c'est un grave sujet. Hein.
Nous n'avions pas eu assez de temps. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, notre planète compte bientôt 8 milliards de personnes. Et sur ces 8 milliards de personnes, il y a 690 millions qui ne mangent pas à leur faim chaque jour. Alors, bon, évidemment, on peut l'expliquer. On peut expliquer que certaines régions, évidemment, selon leur position géographique, ne peuvent pas bénéficier de cultures assez suffisantes. Mais il y a d'autres causes. C'est par exemple l'insécurité, cette insécurité alimentaire, elle est due aussi à tous les conflits qui se déroulent sur notre planète.
On en a un exemple avec le conflit en Ukraine, hein,
oui,
je crois.
Évidemment. Jusqu'en 2014, il y a eu des années où ça a baissé. Et puis cette insécurité s'est carrément aggravée. Alors, non seulement à cause des conflits armés, mais également à cause des conditions climatiques extrêmes.
Tout à fait, le réchauffement.
Et puis des crises économiques à répétition. Alors, qui souffre en particulier de cette insécurité alimentaire, en premier lieu, ce sont les femmes. Parce que les femmes, ce sont surtout elles qui travaillent. Et quand il y a un problème dans le ménage, eh bien, par exemple, si le mari est au chômage ou le compagnon est au chômage, ben c'est elles qui font ce qu'elles peuvent.
Pas dans toutes les sociétés.
Les pays où...
Les pays sous-développés.
Les pays où c'est vit la faim.
Voilà. Bon, bah Michel, alors, donc effectivement, tu as abordé un sujet très important, et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Quand on voit tout ce qui manque dans les rayons des supermarchés à l'heure actuelle, ne serait-ce que de la moutarde, moi, ça fait à peu près presque 2 mois que je n'ai pas pu acheter un pot de moutarde. Ceci dit, c'est pas bien grave, je m'en passe. Il y a, je pense, des personnes qui souffrent autrement de la faim dans le monde.
Et je pense que ça n'est pas que... dans les pays qu'on considère du tiers-monde. Malheureusement, dans les sociétés évoluées, il y a toute une frange de la population qui ne mange pas à sa faim. Il y a combien d'enfants, par exemple, qui n'ont que le repas de la cantine ?
Eh oui.
Quand il n'y a plus d'école, ça s'est posé au moment du confinement. Mmh. C'était des gamins qui se retrouvaient sans repas. En dénutrition, en sous-nutrition.
Voilà.
Et je pense que...
Et souvent, malheureusement, avec de la malbouffe. Parce qu'effectivement, les gens, quand ils ont un petit peu d'argent, je pense, se tournent vers des aliments plaisir qui ne leur font pas forcément du bien. Alors par contre, il y a MC qui, elle, veut nous parler justement de la malbouffe, je crois. Tu m'as fait un signe.
On avait parlé la dernière fois, c'est ce que j'avais parlé, mais là, je voulais plus parler de, étant donné que j'ai tenu un restaurant.
Ah, tout à fait, oui,
donc, c'est intéressant. Donc, les achats et puis les fournisseurs.
Alors justement, parce que, Louis, c'est vrai que les fournisseurs, est-ce que tu avais, par exemple... Comment recours à des oui, centrales d'achat exact. Ou alors plus
alors,
à des fournisseurs locaux.
Centrales d'achat, métro, promo cash pour l'épicerie, pour les principaux aliments. Mais sinon, après, des producteurs en direct, les légumes et fruits, le poissonnier, les produits frais et puis les produits locaux. De saison, parce que moi, quand je vais dans les magasins au moment des fêtes et que je vois des melons et des fraises ou bien des haricots verts qui viennent du Kenya et tout ça, je suis vraiment scandalisée et de voir que les consommateurs aussi achètent. Et ce qui m'interroge beaucoup, c'est la perte. La perte des aliments. On dit que les gens manquent de beaucoup de choses, mais vous regardez dans les frigos, même dans des familles qui sont pas spécialement aisées, il y a toujours plein de pertes. Ils ne savent pas comment cuisiner des petits restes ou bien mettre au congélateur si s'ils ont trop et tout. Ça aussi, c'est vraiment scandaleux. On est obligé de faire attention de plus en plus.
Et toi, donc dans ton restaurant, c'était de la cuisine fait maison.
Ah oui, tout était fait maison. Si on pouvait congeler des produits frais.
Tout à fait.
Mais sinon, c'était pas des produits cuisinés d'avance, quoi.
Et je pense que quand même, les gens prennent conscience de tout ce que tu nous as dit, là, notamment les fraises à Noël. Moi, je sais que la première, un jour, je vais faire des courses dans un petit magasin.
Et on
me fait goûter des fraises à Noël. Je dis, écoutez, je suis désolée, non, pas à Noël. Oui. Voilà. Ou alors, je les mange congelées.
Je sais pas s'ils ont du goût, Je sais pas quel goût ils ont, j'essaye même pas.
Voilà. Donc, il y a Sylvie qui veut nous dire un petit mot.
Alors moi, je voulais juste vous parler, c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est l'entraide et la solidarité qui va nous permettre de faire face. Alors, dernièrement, je lisais, et déjà en 2021, à Périgueux, les habitants sont autorisés à planter dans l'espace urbain. C'est un permis de végétaliser, en fait. Donc, admettons, j'ai envie d'avoir une plate-bande devant chez moi dans laquelle je vais pouvoir faire pousser des légumes. Et bien ensuite, je pourrais les partager avec mes voisins. Partage. Les services techniques en retour font le nécessaire pour aider à la réalisation du projet. Et je pense que ça doit exister aussi certainement dans d'autres villes. Et je pense qu'on va y arriver comme ça.
Chez Caévreux, par exemple, on a des... Bon, c'est pas tous les légumes, mais je sais qu'il y a des endroits où on peut cueillir des herbes aromatiques, il y a quelques fraisiers, il y a quelque chose comme ça. Donc effectivement, ça pourrait être développé. Michel, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, moi je voulais dire que c'est au niveau mondial qu'il va falloir agir. Parce que c'est tout notre système alimentaire et agricole qui est à revoir.
Tout à fait. Mmh.
Tout à fait. Hein. Mmh. Alors, par exemple, on abat des forêts. Pourquoi faire ? Bah, pour cultiver des palmiers à huile. Mmh. Mmh. Alors, l'huile de palme. Bah, il paraît-il qu'il faut pas, c'est pas bon pour la santé, ça.
Bah, disons que ça n'a pas trop d'oméga 3, mais voilà, je pense.
On abat aussi des forêts pour cultiver du soja. Et le soja, il est pour qui ? Bah, pour nourrir le bétail. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Bah non, ça, ça va plus, hein. Alors, développons les cultures vivrières, aidons les petits paysans à travailler leur minuscule terroir et puis les pays riches, eh ben, arrêtez de bouffer de la malbouffe et tout.
Non, mais... Michel, tu as raison, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé les informations hier soir, ils ont parlé donc d'une nouvelle chose, c'est que les gens, le terrain agricole maintenant ne pourra plus être bétonné comme il l'a été. Et on propose aux gens qui ont des grands terrains, notamment 1000 mètres carrés, de diviser leur terrain en deux et une partie donc conserve leur habitation et sur la partie du jardin, ils construisent une maison et les gens, ça leur voilà, ce qui fait qu'ils arrivent à construire en centre-ville en divisant les espaces de jardin par deux et ça permet en même temps d'éviter justement de supprimer des prairies, de supprimer et les ronds-points et tout ça. Faudrait qu'on y pense aussi un petit peu. C'est sûr que c'est voilà, on facilite peut-être la circulation des voitures, mais on va effectivement on détruit notre paysage agricole. Michel.
Et les pays riches, ils se donnent bonne conscience. En donnant leur surplus. Alors, on donne du beurre, par exemple. Les Africains qui vivent dans l'Afrique subsaharienne, mais du beurre, ils n'en consomment pas.
Non.
Alors, nous, on donne ce dont on a trop. Et, ben non, ça ne va pas, ça. Il faut aider ces populations à travailler la terre, leur apprendre, leur donner des moyens techniques... pour qu'ils puissent faire leur culture vivrière et nourrir toute leur population.
Marie-Claude, tu veux nous dire quelque chose ?
Oui, on a passé 2 ans complètement fous, là, farfelus avec le Covid. Et donc, il y a des agriculteurs locaux qui ont essayé de vendre leur production et ça a très bien marché. Les gens ont redécouvert ces productions à deux pas de chez eux. Manque de peau, c'est que depuis qu'on est sorti du Covid et que chacun a repris ses petites habitudes, eh bien, la plupart des agriculteurs, ils ont été obligés de mettre la clé sous la porte parce que les gens ont repris, sont retournés. Alors, est-ce que c'est les grandes surfaces ? Est-ce que c'est le délai qu'il faut pour faire les courses, la vie qui a repris ses droits, etc. Mais voilà, on fait des allers-retours continuels et par rapport à ce que vient de dire Michel, c'est vrai que l'Europe, hein, je parle de l'Europe, l'Europe est un grenier quand même, hein, il faut le savoir, hein, de toute l'alimentation. Hein.
L'Ukraine en particulier.
L'Ukraine n'est pas encore dans l'Europe.
C'est un grenier à blé.
Oui, oui. Pas encore, mais
géographiquement aussi.
Si, géographiquement.
Alors, nous arrivons...
Alors voilà, donc nous arrivons donc au terme de ce sujet. Donc bientôt, il va être temps de passer à un autre thème. Donc alors, en mot de synthèse, j'ai envie de dire, on n'en a pas trop abordé, c'est que la nourriture soit ta médecine. Parce qu'effectivement, je pense qu'en mangeant bien, on évite des fois d'aller chez le médecin. Alors, voilà. Donc,
qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Ben, on va demander à Paul. Non, un petit jingle. Musique. Une petite musique, voilà, c'est ça. Alors... Hop, c'est parti, la petite merde.
C'était Jacques Duchesne, c'était Jean Marin, c'était Jean Berlet, c'était Jacques Brugius, c'était Pierre Bourdon, très important. L'important, c'était Maurice Schumann. Voilà.
Les Français parlent aux Français.
Les gorilles bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. et la Valkyrie nous tamponne. Si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages, les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, les facteurs s'endort sous nos fenêtres. Ici Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres, à d'autres temps on n'était plus résistants. Notre temps n'était plus résistant.
Les Français parlent aux Français.
Il pleut toujours sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne. Si l'on en croit Radio London. On est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres. À d'autres temps on n'était plus résistant. En d'autres temps on n'était plus résistant.
Eh bien, nous venons d'entendre Axel Bauer, ici Londres, en hommage à son papa.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif. Le mix des cultures.
Laissez parler les petits papiers.
Alors, Paul, ça va être à toi donc d'agir donc pour le tirage du second thème.
Eh bien,
alors attention, c'est bon, vas-y Paul, qu'est-ce que tu nous as ?
Alors, cinéma et numérique.
Ah, ben super, donc nous laissons la parole à Marie-Claude.
Alors, nous venons d'entendre Un homme et une femme, le film de Claude Lelouch, en hommage à Jean-Louis Trintignant. Le cinéma existe depuis plus de 100 ans. Les frères Lumière l'ont en partie inventé. Il est qualifié de septième art. Quant au numérique, il est considéré comme le dixième art grâce aux jeux vidéo. La rencontre de ces deux domaines au cours du siècle dernier a permis des créations impensables sans eux. Le son est l'image parfaite reflétant la réalité. Les effets spéciaux nous transportant dans des mondes imaginaires. Jurassic Park, Star Wars, etc., etc. Mais pourquoi va-t-on au cinéma ? Quel genre de film préférons-nous ? Comment choisit-on le film ? Pour l'acteur ? Le réalisateur ? L'histoire ou le pitch ? La musique, bien sûr ? Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Qui veut s'exprimer sur ce sujet ? Oh, il y a un blanc là. Non, voilà, Lucette est partie.
J'ai toujours quelque chose à dire. Alors.
Ben, c'est très bien. Merci.
Non,
Lucette.
Mais moi, c'est très variable. Souvent, je me fixe sur les acteurs, des acteurs que j'aime bien voir jouer. Aussi, les réalisateurs. Je ne sais pas si c'est les réalisateurs, d'ailleurs. La mise en scène, enfin, par exemple, c'est un film de Lelouch, c'est un film... voilà. Donc, dans ces cas-là, je me sens en sécurité pour aller voir ce film. Et ce que je regrette, justement, par rapport à une certaine époque, c'est que maintenant, le cinéma coûte cher et que, du coup, on se contente d'aller voir les films dont on connaît déjà les acteurs parce qu'il y a une mise de fond à mettre et qu'on ne veut pas la mettre à fond perdu. Alors qu'avant, ça m'est arrivé d'aller voir des films et que je connaissais pas du tout, par exemple un air de famille. J'y suis allée tout à fait par hasard.
Pour la découverte, quoi.
Ben oui, parce que je me suis dit, bon, on va aller voir ce que c'est. Et là, je trouve que j'ai découvert des choses que maintenant je ne découvre plus parce que je choisis beaucoup plus où je vais. C'est un petit peu dommage.
Sylvie, ton avis ?
Alors moi, c'est autre chose. Je voulais faire un petit clin d'œil au cinéma muet.
Oui, ah oui.
Et voilà.
Précurseur.
Voilà. Précurseur. Et moi, c'est des souvenirs quand j'étais petite avec ma grand-mère qui adorait aller au cinéma.
Oui.
Et j'entendais parler de Rudolf Valentino.
Ah, le beau ténébreux.
Ah oui, alors le beau ténébreux, hein, parce que c'était quand même un acteur talentueux. Hein. Et c'était un danseur à la base. Donc ça, moi, ça me va bien. Hein, parce que j'adore la danse. Et en fait, bah, je voulais juste vous dire que c'était le tombeur de nos grands-mères et arrière-grands-mères éventuellement. Hein. Il était idolâtré par des millions de femmes.
Ah oui.
Il est mort très jeune. Mmh. Et il y a eu quand même un raz-de-marée quand il est mort, hein, parce que les femmes, on était folles amoureuses, quoi. Oui. Voilà, c'était mon petit clin d'œil.
Michel.
Oui, moi, je voudrais vous parler d'un nouveau festival.
Ah.
Parce que Cannes, on en a plein les oreilles. Hein. Donc, c'est un festival qui s'est tenu début mai à Vierzon.
Ah, d'accord.
Et le jury était présidé par Corinne Maziero. Tout le monde connaît.
Oui, oui, hein. Absolument. Capitaine Marleau, voilà.
Donc, c'est un festival du film de demain. C'est-à-dire, ne seront présentés que des films présentant des sujets de société.
Ah.
Car le réalisateur qui s'est lancé dans cette voie-là considère que un film, c'est une arme.
Exact, oui, très bien. Oui, tout à fait d'accord.
Il s'appelle Louis-Julien Petit. Il est de Vierzon. C'est pourquoi ce festival a eu lieu à Vierzon, du 2 au 5 juin cette année, pour la première fois.
D'accord. Donc, en fait, ce sont des films qui parlent de problèmes de société.
Oui, mais qui ne sont pas seulement destinés aux salles de cinéma. Ils peuvent être diffusés sur la plateforme ou à la télévision.
Oui. Hein,
avec ou sans distributeur.
Ah, voilà. Oui. Mmh. Par l'intermédiaire.
Ce qui compte, c'est le sujet et la manière dont il est traité.
D'accord.
C'est quand même assez...
Oui, c'est novateur.
Novateur comme... Ouais.
Lucette.
Mais c'est vraiment un... Enfin, quand je dis c'est vraiment un film, ça n'est pas un documentaire.
Ah non, 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 ce sont des films.
D'accord.
D'accord. À la fin, il y a un prix, il y a des choses qui sont données ou quoi ? Comment ça se passe ?
Bah, s'il y a un jury, je suppose
il y a un jury, d'accord, ok.
Oui, un jury pluridisciplinaire. Oui, technique, multigénérationnel, enfin bref.
D'accord.
À l'image de la société et de l'audiovisuel
bien sûr,
d'aujourd'hui. Bien
sûr. Hein. Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui,
moi, je veux rebondir parce que la Normandie, on est quand même bien situé au niveau des festivals. On a le festival du film romantique, donc à Cabourg, hein, et puis à Deauville. Alors Deauville, par contre, c'est le festival américain. Voilà, le film américain, voilà. Et puis je souhaite aussi rebondir sur ce qu'a dit Lucette par rapport au prix des places de cinéma, qui effectivement c'est une réalité. Alors par contre, bon, je vais faire un petit coucou au CCS et à la ville d'Évreux, sans vouloir faire... voilà. Mais bon, c'est vrai que au cinéma, vous pouvez comment souscrire un abonnement mensuel qui revient, je crois, pour une personne autour de 19,90 €. Et honnêtement, c'est donc le cinéma en illimité. Donc, il est vrai que c'est un petit budget tous les mois, mais au bout de déjà de deux séances, vous l'avez largement rentabilisé. Et puis, bah, pour les gens comme nous, les seniors du CCS, on a la possibilité, en fonction de nos revenus, d'avoir des places de cinéma à prix réduit, hein, donc de l'ordre de entre 3 et 4 euros. Donc ça permet, on a droit à 2 places par mois, ça permet quand même d'ouvrir le cinéma à une population qui n'irait pas forcément.
Oui, comme l'a dit Lucette.
Oui,
Missy. Bon, moi c'est pareil, je reviens sur ce que Lucette et Florence viennent de dire. C'est cher les places de cinéma, hein, donc j'y vais pas souvent. Mais c'est sûr qu'avec le CCS, maintenant, on arrive à avoir des places. On a été un certain temps sans en avoir. Là, c'est revenu. Mais j'ai une fille qui est très cinéfilm, hein, qui va 3-4 fois, Fanny, par mois, puisqu'elle a un abonnement à 19,90 € mensuel.
Donc je lui ai demandé quel plaisir elle avait d'aller cinéma. Donc elle, pour elle, c'est l'ambiance, voir un film sur grand écran. Comment dirais-je, dans un fauteuil bien confortablement assise. Et puis, elle aime bien les films dramatiques, l'action, aventure et tout ça. Et après, elle se sent plus sereine, heureuse. Hein,
et, oui, Michel.
Ça lui fait le vide dans la tête.
Et je pense qu'il y a le partage.
Oui.
Qu'il n'y a pas que si tu es devant ta télévision et que tu regardes un film tout seul. Hein.
Oui. Alors, j'allais rebondir dessus parce que maintenant, il y a beaucoup de sites, mais de réseaux où il y a Netflix, Salto, etc. Est-ce que vous êtes abonné et que pensez-vous de l'utilisation de ces plateformes? Pardon, voilà la plateforme.
Alors, moi, je suis abonné effectivement à Netflix. Après, je suis un petit peu déçu parce que, effectivement, on n'a pas les derniers films, en fait. Les derniers films venus, enfin, sortis. Après, ça permet d'aller un petit peu à l'aventure, mais il y a un tel choix que je crois qu'on est un peu tous perdus et que parfois, on est un peu déçus des sélections que l'on peut faire. Mais, quelquefois, notre bonne surprise. Voilà.
Ouais. Quelqu'un, peut-être ?
Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est ça qu'il faut payer encore en plus.
Oui, ah,
c'est
en plus.
C'est toujours... Alors, moi, personnellement... Forcément, peut-être parce qu'avant c'était la télé, on payait la redevance. Maintenant, on va peut-être plus la payer, mais il faut à chaque fois ajouter quelque chose pour avoir Canal+, pour avoir le sport, parce que bon, moi je regarde pas le sport, mais il y a des gens qui regardent pour avoir. Et je trouve que c'est un petit peu bon, dommage, mais il y avait autre chose, puis j'ai oublié.
Alors mais ça va revenir, Lucette. On est là pour un petit moment déjà.
Ça doit être un service public.
Je sais pas. Oui, enfin bon, c'est toujours payé aussi. Alors, service public.
Je pense que à la rentrée, on pourrait choisir comme thème l'argent.
Pourquoi pas ? Ça y est, on a déjà un thème pour le retour.
Bah, par contre, moi, je voulais dire que bon, je ne vais pas au cinéma, mais j'adore aller voir un chanteur, les concerts. J'adore aller au théâtre, voir une comédie musicale. Je trouve que c'est plus vivant, on participe et tout. Voilà ce que je préfère par rapport au cinéma.
Oui, c'est une autre forme de loisir et de partage aussi. Voilà, oui, absolument. Voilà, Alors, Lucette.
Ça y est, c'est revenu. L'avantage d'aller au cinéma par rapport à la télévision, c'est qu'au cinéma, on est assis et on regarde le film. Qu'à la maison, on a toujours quelque chose qui nous dérange. Tandis que là, quand on va au cinéma, dans la salle, vraiment, c'est un moment où on ne fait que ça. Et du coup, on partage effectivement, soit avec les gens qui sont avec vous, soit avec les voisins.
Oui, c'est vrai. Mais tu parlais de théâtre, de concert, etc. Tu sais que aussi au cinéma, tu peux voir des opéras, des pièces de théâtre, des concerts, etc. Et c'est beaucoup moins cher en plus de ça que d'y aller.
Oui, mais c'est moins vivant.
Alors, je suis absolument d'accord. Là, on ne peut plus applaudir. Ça me plaît pas.
Alors, effectivement, quand tu parles de ça, moi, j'ai assisté donc aux Vieilles Canailles. J'étais à Rouen et c'est vrai que j'étais frustrée parce qu'il y avait, on pouvait pas, il y avait pas d'ambiance dans la salle en fait. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de me lever, de chanter avec eux,
de danser, etc.
Et là, on peut pas.
Et bon, pas.
Et là, on le fait pas.
Voilà, on arrive à la fin. Ça va vite, hein, notre petit internet.
On a encore plein de choses à dire.
Et on a plein de choses à dire, comme vous le voyez. Mais on arrive au bout, voilà. Donc c'était le cinéma et le numérique. J'espère que vous avez pu participer et puis apprendre des choses. Et pour terminer ce thème, je voudrais vous donner une petite citation de François Truffaut. Tous les Français ont deux métiers, le leur, leur métier bien sûr, et critique de cinéma. Voilà. Je vous laisse ça, vous avez une heure pour me sortir une dissertation. Merci, allez, on passe à autre chose.
Laissez parler les petits papiers.
Alors, Paul, on y va? Attention, roulement de tambour. Alors, Paul plonge la main pour l'avant-dernier thème.
Alors, voyons un petit peu. Oh là là, le bonheur et l'amour.
Le bonheur et l'amour. Alors, allons-y.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?
J'ai fait l'amour.
Alors merci Christophe Mahé. Effectivement, le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? On le cherche. Le bonheur et l'amour sont-ils les deux faces d'une même pièce? Peut-on découvrir l'un sans connaître l'autre? Depuis l'Antiquité, les philosophes et écrivains se sont penchés sur ces états émotionnels. Plénitude et satisfaction de l'esprit et du corps. Plaisir du quotidien pour le bonheur. Pas de possession ni de dépendance, mais acceptation et don de soi pour l'amour. Quel avis, nos chroniqueurs? Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire à ce niveau. Sylvie?
Pour moi, c'est vrai qu'on est tous là pour l'amour. L'amour. Et bon, je vous parlerai bien, moi, parce qu'il y a une chanson de Florent Pagny qui me parle vraiment. C'est, en fin de compte, il parle de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est une façon d'aimer l'autre sans attendre en retour. C'est-à-dire qu'on l'aime, point. On n'attend pas que l'autre nous aime en retour. Je vous explique aussi un peu autrement. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, sans réserve, avec ses défauts et ses qualités. Et il faut surtout pas chercher à le changer. Et le vrai amour, c'est ça. Voilà.
Effectivement, de belle philosophie.
Alors, moi, le bonheur, il est là. Quand on est tous ensemble et qu'on participe à faire quelque chose ensemble. Partager une activité, c'est déjà un bonheur. Alors, bien sûr, l'amour, ça prend plusieurs formes. Hein. On peut aimer un homme ou une femme ou... On peut aimer le chocolat, et on peut aimer... Non, c'est pas le même, mais le verbe aimer est employé à plusieurs, avec plusieurs sens. Et là, moi, j'aime être ici, même si ça ne satisfait que mon intellect ou je sais pas. Mais voilà, c'est ça.
Merci, Lucette. Michel?
Alors, Sylvie, quand tu parles de l'amour inconditionnel, est-ce que tu penses uniquement à l'amour conjugal?
Ben oui, je parlais de ça. Mais par contre, c'est vrai que l'amour inconditionnel, on l'a avec nos enfants, par exemple, ou nos petits-enfants. Voilà.
Oui, mais il y a aussi l'amour du prochain.
Bah, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Tu vois, l'amour du prochain, c'est pareil. Mmh. On peut aimer quelqu'un comme ça, pour, juste parce qu'on l'aime bien. On l'aime bien. Ça peut être aussi ça.
L'amitié, tu mets
l'amitié. Je pense que l'amitié va aussi avec. Oui, effectivement.
Ouais.
Oui, oui. Tout ça se confond en fin de compte. Mais le grand thème, c'est quoi? C'est là, ça se passe là au niveau du cœur.
Oui.
MC veut nous dire.
Ouais, bon, déjà, on imagine mal le bonheur sans l'amour. Hein. Et aussi, bon, la notion du bonheur, c'est suivant aussi les âges. On n'a pas le même bonheur à 20 ans qu'à 70 ans, quoi. Hein. Mm-hmm. Donc, à 20 ans, il y a l'activité, l'excitation, le travail. Et nous, les aînés, bon, ça rime plus avec plénitude et calme. Hein, parce que, bon, on est plus serein, les ambitions sont plus les mêmes.
Exactement.
Hein, donc, on se satisfait on a moins de pression qu'on a 20 ans, quoi.
Le quotidien est différent, déjà.
Le quotidien est différent.
Et à 20 ans, on est plein d'espoir. Et puis, oui, à 60 ans.
Et puis, bon, le bonheur, c'est un état de satisfaction aussi. Je trouve que ça se travaille aussi, le bonheur. Hein, comme là disait tout à l'heure Lucette, on a le bonheur d'être ensemble aujourd'hui. Hier, c'était un autre bonheur de voir des amis, d'aller voir une... Bon, c'est
les petits bonheurs de tous les jours.
Voilà, c'est ça. Et
il y a Michel qui veut nous intervenir.
Oui, moi, je voudrais dire que l'amour, c'est pas seulement aimer une personne.
Tout à fait.
Mm-hmm. Hein, tu peux aimer les artistes, par exemple. Mm. Ils aiment le beau. Tu prends un peintre, par exemple. Pour lui, le bonheur, c'est d'avoir réalisé toute son œuvre et de se voir reconnu. De même pour les écrivains, enfin, c'est pas seulement... Tu peux aussi avoir l'amour de la vérité. Il y a des gens qui se battent pour que la vérité soit reconnue.
Mais alors, sont-ils heureux s'ils n'y arrivent pas?
Ça.
Et alors, ne faut-il pas non plus s'aimer soi-même avant d'aimer les autres? Qu'en pensez-vous?
Oh oui.
C'est parce que si on ne s'aime pas, est-ce qu'on est capable d'aimer les autres?
Il faut être indulgent et positif avec soi-même et envers les autres, quoi. Hein.
Tout à aussi, fait, je pense que ça passe.
Là, j'ai un proverbe à la maison qui dit « Il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».
Oui, oui.
Et je pense que...
Avant de donner, je pense qu'il faut aussi savoir, nous, être heureux, être bien dans notre vie. Je ne sais pas ce que vous en
on
pensez.
On le transmet.
S'aimer soi-même, c'est certainement un but, mais moi, je trouve que ce n'est pas toujours facile.
Non, effectivement, ça peut des fois paraître...
Ça n'empêche pas d'aimer les autres.
Alors voilà, souvent ça peut peut-être paraître pour de l'égoïsme quand on dit ça. Maintenant, on est une société où le bien-être est important. S'aimer soi-même, moi je sais que moi je ne suis pas centrée sur moi-même. Je suis heureuse que si je peux donner quelque chose à quelqu'un, enfin donner, on va dire, de l'affection, de l'aide, voilà. Mais à moi-même, effectivement, je pense qu'avec l'âge, on apprend aussi qu'il est important d'être bien avec soi, de se faire du bien, voilà, de penser à soi pour pouvoir penser aux autres, en fait. Et savoir des fois être un petit peu égoïste fait du bien aussi au bonheur. Voilà.
Enfin, c'est oui, mais peu... c'est l'âge aussi qui permet d'arriver à cet état, en fait, hein, parce qu'à 20 ans, on a autre chose à faire et on veut tout avoir.
Sylvie, en fin de compte, j'aime bien dire des petites citations des fois, justement.
D'accord, tu vois.
À mes proches, par exemple, aux petits, à mes petits enfants. Alors, il y a des petites citations que j'adore, que je connais par cœur, du coup. C'est le bonheur est un papillon de jour.
Un quoi ?
Un papillon de jour.
Ah, pardon.
Pardon.
Le rire, c'est la tirelire du bonheur.
Ah, c'est gentil, ça.
Gling gling.
Le bonheur est un horizon que chacun apprécie au regard de ses émotions.
Ah bah c'est un petit peu ce qu'on vient de dire là.
Voilà. Ouais. Et pour finir, alors, le bonheur ne consiste pas à avoir le meilleur de tout, mais à savoir comment tout rendre meilleur.
Bravo.
Voilà.
Là, on a élevé le niveau.
Exactement.
Là.
Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a.
Ah, et voilà, merci. Apprendre à ce que l'on, voilà, à apprécier ce que l'on a et à ne pas dire, voilà, de voir que ce que l'on n'a pas. Effectivement, tu as raison.
Envier les autres, etc.
C'est vrai.
Ne pas se comparer.
Ah, ça aussi.
Parce que, par exemple, ce matin, j'écoutais une émission sur les chemins de Compostelle et je trouvais que c'était vraiment passionnant de pouvoir faire ça. Mmh. Maintenant, pour moi, c'est terminé. Je ne pourrai plus jamais le faire. J'essaie de ne pas penser que je pourrais. Parce que sinon, ça rend malheureux. Donc, je me tourne vers les choses que je sais faire. Je sais raconter des histoires.
Tu nous donnes beaucoup de bonheur quand tu nous racontes
donc,
des histoires.
Et là, dans ces cas-là, je suis vraiment heureuse.
Eh bien, ça, c'est bien.
Mais voilà.
On participe à ton bonheur en t'écoutant, alors.
Merci.
Et voilà. Et je crois que, justement, tu parlais du chemin de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a deux personnes dans notre groupe qui, au mois de cet été, vont partir. Marie-Claude, tu prends le micro, tu pourras nous en parler un petit peu. Prends ton micro.
J'en parlerai au retour. Hein. Voilà. Là, ça fait déjà 2 ans que ça me trottait dans la tête. Bon, il y a eu le confinement et tout ça. Et bon, faut préparer aussi. Donc, au mois de septembre, un jour, je marchais avec Paul dans la forêt. J'ai dit, vous devinez ce que je vais faire. Elle me dit, je vais faire Compostelle. Ah, je vais avec vous. Donc, Paul m'accompagne. Ah oui, oui, ça a été vite à la réaction. Donc, on le prépare. On a encore fait hier et tout.
Et est-ce que c'est une démarche spirituelle pour toi ou est-ce que c'est une démarche simplement sportive?
Non, spirituelle, oui. Paul peut en parler.
Oui, hein, c'est plutôt une démarche spirituelle. Il faut reconnaître que de temps en temps, à la télévision, il y a des reportages sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je les regardais émerveillée, mais sans plus. Et en vieillissant, je me suis rapprochée plus du spirituel. Et je reconnais qu'après la mort de mon mari, ça m'a, quand Marie-Claude m'en a parlé, ça fait tilt et j'ai dit, il faut que je le fasse.
Eh ben, c'est très bien.
Voilà.
Et comme quoi, voilà, quand on peut physiquement, il faut toujours... Oui. C'est très, très... Michel.
On a oublié de parler de l'amour de la patrie.
Ah oui, c'est vrai qu'effectivement.
Et quand même, Jeanne d'Arc...
Oui, hein, c'était pas loin.
Oui.
Hein. Et puis la...
Pardon. Ah.
Alors. Vas-y.
L'amour de la patrie, c'est bien si ça ne porte pas au conflit.
Voilà.
Parce que souvent, pour défendre l'honneur de la patrie, on passe par les armes. Alors, c'est bien d'aimer son pays, mais il faut savoir modérer les choses, je crois.
Michel ?
Oui, oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais je pense que il y a des gens qui sont prêts à mourir pour défendre leur pays.
Ah mais ça c'est certain. Maintenant, je ne sais pas si Jeanne d'Arc, elle était tellement contente quand elle était sur le bûcher.
Ah bah ça, écoute, on n'a pas été interviewée. Hein.
Après, Jeanne d'Arc, je pense que bon, elle a, c'était des convictions qu'elle avait. Je pense que quelque part, son, bah, je ne sais pas, on ne peut pas parler à sa place, mais peut-être que son bonheur, c'était effectivement d'être allée au bout de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle voulait faire, malgré les conséquences sur sa vie à elle. Voilà, donc après on peut parler du chemin, peut-être qu'elle allait, elle est allée vers, elle espérait un chemin peut-être meilleur pour la suite.
C'était sauver le royaume de France.
Voilà, c'est ça. Et voilà. Bon, alors donc, qui est-ce qui veut nous parler un petit peu du bonheur encore là? C'est voilà, donc c'est
oui,
bien.
Sylvie
veut nous dire encore quelque chose.
Une petite chose sur le bonheur, le bonheur, être heureux. En fin de compte, comme disait Lucette, je pense que c'est quand on est dans notre élément, quand on fait les choses qu'on aime. C'est ça, je pense aussi, la définition du bonheur. Mmh. Être en accord avec soi-même et oser faire des choses. Se lancer, comme là, l'émission de radio, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi, je trouve mon bonheur.
Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, nous, quand on était, ben, on va dire, jeune maman, on travaillait, donc on était pris dans l'activité. Et puis nous, à l'époque, on se donnait pas de temps. Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'on n'était pas une époque où nous, jeunes filles, on pensait à soi. Maintenant, je pense que les jeunes, justement, ont compris ça. Voilà, ben, notre thème sur le bonheur, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, est terminé. Je terminerai par une phrase. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Alors, cette phrase a été dite par donc, notre ami Jean-Louis Trintignant. On a parlé de lui, là, c'est vrai qu'il nous a quittés il y a peu, donc on a l'opportunité de lui rendre un petit hommage. Et il a dit cette phrase en 2012 en recevant la Palme d'Or pour le film Amour. Voilà. Donc.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs.
Et voilà donc. Florent Pagny, donc savoir aimer, donc pour clore cette émission sur le bonheur.
C'est trop bien la radio!
Principe actif 102.4 FM.
Alors, nous allons aborder le quatrième et dernier thème, qui est le thème mystère. Alors là, je peux vous dire que là, dans le studio, il y a un blanc et il y a une pression qui se fait là, parce que personne ne connaît sauf moi. Alors, Paul, on y va. Voilà.
Alors voyons. Congé, vacances, temps libre.
Et voilà, c'est posé. Je l'introduis et après, on démarre le débat. Il y a plus de 90 ans, seules les classes très aisées pouvaient s'octroyer un temps ou un moment de villégiature. Aujourd'hui, grâce aux avancées sociales, nous avons la possibilité de partir en vacances. Mais où ? À la campagne ? À la montagne ? Au bord de mer ? Chez soi ? Pour visiter, buller, étudier ou pour rénover la maison ? Quelles sont vos préférences et parlez-vous et parlez-nous de vos meilleures vacances ? Qui veut lancer le débat ? Michel.
Bien, nous, les seniors, nous sommes en congé toute l'année, en fait.
Exactement. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que demander le thème ? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre ? Eh ben, on fait de la radio.
Oui.
Guy et moi, nous faisons du théâtre. Sylvie fait de la danse. Florence fait du vélo.
Oui, oh, puis il y a d'autres choses.
que je ne veux pas savoir.
Oh, mais c'est tout à fait respectable.
Marie-Claude, elle, va beaucoup au cinéma.
Exactement.
Lucette, elle lit ses contes, elle en raconte. Paul.
Elle aime la couture, le tricot.
Le pastis.
Et le pastis. Comment vous le savez ?
Parce que on est allé ensemble.
Ah oui, c'est vrai, un jour. Oui, oui.
Je suis et MC alors.
Du yoga et beaucoup de marche aussi.
Hein. Et de la
du
piscine.
Vélo.
Et de la piscine.
Et de
en
la
fait.
Piscine. Voilà. Enfin, beaucoup d'activités extérieures, moi.
Alors, et là, Guy qui ne dit rien dans son petit coin. Guy, il aime bien la poésie.
Il a pas de micro.
Non, c'est pas.
Non. Et bientôt, au mois de septembre. Nous allons tous les deux retourner au théâtre.
Voilà. On va retourner au théâtre. C'est
avec notre amie
Myriam. Myriam Zwingel, qui a beaucoup de. Comment dirais-je, beaucoup de talent. Et personnellement, elle m'a beaucoup secouru et donné du moral, cette femme-là. Enfin, en plus, je joue au billard aussi, ce qui me prend beaucoup de temps. Parce que pour avoir du progrès dans ce domaine-là, il faut passer du temps. Et là, ça me fait vraiment du bien aussi.
Alors là, on vient de parler donc du temps libre des seniors, ok ? Mais les congés, les vacances, quand vous en preniez ? Oui,
alors
Florence.
Moi, dans le temps libre, moi je crois qu'on est pratiquement toutes mamies. Je crois qu'une grosse partie de mon temps libre, ce sont mes petits-enfants. Et c'est vrai que c'est le bonheur de notre vie. Par contre, c'est vrai que moi, je me sens jamais en congé. J'avoue que là, tu vois, par exemple, les jours fériés, les vacances, j'ai du mal. Il faut vraiment que je regarde le calendrier pour repérer les vacances scolaires. Enfin, voilà. Mais il est vrai qu'en tant que retraitée, il est quand même important de se faire une routine. Dans notre organisation, avec des périodes où on ne fait rien. Hein. Et voilà, donc alors c'est vrai que moi, les congés les meilleurs que je puisse passer, c'est avec mes petits-enfants, au bord de la mer, sans les papas, les mamans. Et voilà, et ça c'est génial, parce que là je retrouve une jeunesse. Et ma petite fille me dit, oh mais t'es rigolote mamie, toi tu fais plein de choses. Et ça c'est le bonheur, voilà, ça fait partie aussi
ouais,
du bonheur.
Exact. Lucette.
Je vais amener une petite touche grise. Mais même quand je travaillais, j'ai horreur des vacances.
Il y a des gens comme ça.
Les vacances, pour moi, alors, si je partais, je suis comme tout le monde, faut pas exagérer quand même. Mais là, par exemple, ça va être bientôt les vacances. Moi, je vis toute seule, je suis pas la seule, il y a des tas de gens dans le même cas. Tout s'arrête.
Effectivement.
Pendant 2 mois, juillet, août, plus de radio, plus de chorale, plus. Et c'est l'occasion qu'on a souvent de rencontrer les gens. Et du coup, c'est un grand vide. Et moi, j'aime pas trop, en fin de compte. Et c'est pareil pour certains week-ends. Hein. Si c'est un week-end qui est inoccupé, ça me semble d'une longueur. Surtout l'hiver, quand il fait gris et qu'il pleut. Sinon, je suis comme tout le monde. Je pars en vacances de temps en temps et je suis contente quand j'y pars.
Sylvie.
Alors moi, les plus belles vacances, évidemment, parce que j'aime bien partir en tribu. Les enfants, les petits-enfants, j'adore ça. Et ce que j'aime surtout, c'est leur faire plein de bons petits plats. et leur faire ce qu'ils aiment. Alors les petits-enfants, ils ont chacun leur goût, hein. Il y en a qui n'aiment pas la viande, il y en a qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça. Eh bien moi, je me fais le plaisir de leur faire chacun leur petit plat. Et ils sont super contents. Et c'est, comme disait Florence, c'est un bonheur quand les petits-enfants sont là pour dire « Oh mamie, je te remercie, ce maman, elle ne voulait pas que je mange ça parce qu'on doit tous manger la même chose. » Eh bien non, mamie, elle fait pour tout le monde. Et puis c'est le plaisir de m'occuper d'eux. Je retrouve un peu ma jeunesse avec... toute ma petite tribu que j'avais quand j'ai...
Dernière question. Oui. Est-ce que, quand tu dis regroupement de toute ta tribu, où est-ce que vous vous regroupez?
Alors, quand j'étais plus riche...
ça arrive.
Oui,
ça
on
arrive.
Louait une maison carrément d'accord, dans le sud, d'accord. Avec la piscine.
Donc campagne, quoi.
Non, dans le sud, bord de mer.
Bord de mer.
Moi, oula, pour moi, les vacances, c'est la mer.
D'accord, ok. Marie-Claude.
Moi, eh bien, c'est plus les petits-enfants, c'est les arrière-petits-enfants que j'ai. Waouh. Donc, il a 5 ans et 1 an. Bon, 1 an, je ne l'ai pas encore, mais 5 ans. Donc, il vient souvent chez mamie pendant les vacances. Mamie, parce que moi, c'est mamie, étant donné que je suis l'arrière-grand-mère. De fait, hein. Donc, eh bien, je lui ai fait découvrir plein de choses. Aller au jardin de Pétainville, monter dans la Bourouette qui n'aimait pas ça, faire du toboggan, enfin l'emmener au jardin à Navarre là où il y a je joue avec lui dans le labyrinthe, comme je suis une vraie gamine moi avec les petits, et avec mes petits enfants c'était pareil, c'est moi qui les ai emmenés dans tous les parcs d'attractions, aussi bien Disney quand ça a ouvert, Futuroscope et tout ça, parce que bah j'aime ça. Et moi, je me prends aussi un plaisir de les emmener. Ça, c'est des vacances aussi pour moi.
Exactement. Donc, on a bord de mer pour Sylvie. Qui d'autre?
Ah oui, Michel. Moi aussi. J'ai
c'est bord de mer.
Bord de mer, oui, quand on était
sur
jeune.
Sur la côte normande, je pense.
On louait un appartement pas loin de Montpellier.
D'accord. Oui, c'est pas loin de la mer non plus, Montpellier, quand même.
Oui, hein. Mais nous, c'était carrément à Palavas-les-Flots. Hein. Et oui, pratiquement les pieds dans l'eau. Et alors, mes filles étaient petites et elles venaient à la plage avec moi. Mon mari, pendant ce temps-là, il allait voir les courses de taureaux. Il faisait ce qu'il voulait. Il allait jouer à la il allait jouer à la pétanque. Mais moi, avec mes filles, oh là là, c'était... Et puis le soir, on se baladait, on allait manger au resto, enfin bref, c'était bien et bon...
Paul, peut-être ?
Bien, moi, je suis du Midi, comme vous devez vous en rendre compte. Hein.
Oui.
Pour moi, c'est pareil, c'est la mer. Quand j'étais jeune, donc j'habitais à Marseille, j'étais à la plage tous les jours.
Tous les jours ?
Tous les jours, ben oui. Pendant les vacances scolaires. Mais maintenant, avec l'âge, je ne supporte plus la chaleur. Alors, oui. Je suis bien contente d'être en Normandie, où la température est beaucoup plus vivable.
Oui, supportable, voilà. Oui, c'est vrai. Florence.
Eh bien, je crois que j'ai perdu mon idée.
Voilà, mais elle va revenir. Je sais qu'elle va revenir.
Je vais en dire une à homme.
Eh bien, voilà.
Je sais que moi, c'est pareil. Avec les petits-enfants, quand je pars une semaine avec mes petits-enfants, sans les parents... C'est quand même un moment de bonheur et c'est pareil, je leur ai fait découvrir beaucoup de choses. Maintenant, je suis vraiment plus assez mobile pour... Et puis eux, ils grandissent aussi. Quand ils ont 17 ans, ils partent plutôt avec les copains qu'avec la grand-mère. Et mes très bons souvenirs, c'était quand j'étais plus jeune, on partait en camping et le camping, c'est génial.
Ah oui.
Alors voilà, ça m'est revenu. Et effectivement, pour rebondir, Michel parlait pour le sujet de l'année prochaine, éventuellement d'aborder l'argent. Et il est vrai que on est quand même tous retraités, avec peut-être des retraites différentes. Mais je sais que moi, pour ma part, le fait d'être à la retraite, c'est aussi synonyme de moins d'argent. Donc effectivement, maintenant, je prends des opportunités. Voilà, j'avoue que je ne peux plus effectivement faire ce que je faisais il y a 10 ans, parce que les finances ne sont plus là. Mais malgré tout, il y a des petites vacances qu'on peut se faire même à côté de chez soi. Je pense que les vacances, c'est aussi rompre le rythme, hein, c'est aussi casser la routine. Et se changer, ça peut être un pique-nique, ça peut prendre le vélo, ça peut partir pour la journée.
Ok. Eh bien, écoutez, on aurait pu encore discuter pendant très longtemps. C'était bien parti, mais on refera ça à la rentrée. Nous arrivons à la fin donc de notre émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous de vous divertir et de discuter. Merci à tous les participants, bien sûr, hein, qui ont été actifs, ainsi qu'à nos journalistes pour leur patience et leur professionnalisme. Nous vous souhaitons de passer de bons moments pendant cette période estivale. Au plaisir de vous retrouver le dernier jeudi de septembre pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous et éloignez la Covid.